Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue dans l'équipe est sauvage, l'émission qui, au service de votre culture G et de votre bonne humeur, secoue les journalistes d'Europe 1. Loin de moi l'idée de dire qu'avant c'était des feignasses, mais bon, un peu quand même. D'où l'idée de les mettre en compétition. Chaque après-midi, ils s'affrontent à coups de chronique. Je les motive avec un coaching à l'américaine.
On va gagner
parce qu'on est les plus forts.
On va gagner
parce qu'on est les plus forts.
Pourtant, à la fin, comme dans Koh-Lanta, il n'en restera qu'un. Deux autres auront à peu près sauvé l'honneur. Quant au dernier, au loser, au raté, on peut le dire, je lui dirai sans état d'âme.
Prenez votre sac, quittez le studio et rentrez chez vous.
Pour s'assurer de la bonne marche de cette émission, ma fidèle complice, la contre-maître de l'info. Bonjour Eva Roque.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde à la télé ou sur les écrans ce soir. Mais d'abord, vous le savez, l'équipe est sauvage, c'est aussi chaque jour un invité d'honneur. Parfois quelqu'un que je connais très bien, comme Kad Merad vendredi.
Je le connais Mathieu, vous savez, moi je l'ai vu net pratiquement.
La sortie du vent, il a coupé le cordon.
On en a chié par contre.
Parfois, comme cet après-midi, une vedette que je connais un peu moins. Et quelle vedette, Eva, une des plus grandes actrices françaises. Bonjour Sandrine Bonner.
Bonjour.
Le 22 janvier prochain, vous serez à l'affiche de Cas Contraire, un film très fort signé Sarah Marx, dont on va évidemment parler. Mais déjà, je tenais à vous remercier d'avoir accepté notre invitation, car vous êtes assez rare, finalement, dans les médias, notamment en radio. La promo aujourd'hui, bon, ça fait clairement partie du métier de comédien, mais c'est pas votre partie préférée du métier.
Ça dépend sur qui on tombe.
Nous allons voir si vous allez regretter ou pas. C'est ça, la pression.
Je vous dirai ça en fin d'émission.
C'est la première fois que non seulement les journalistes vont être notés, mais je sens que moi aussi. Alors moi, normalement, vous ne me notez pas. Je suis le chef, normalement, j'ai pas le point. Mais exceptionnellement pour Sandrine Bonner, elle a le droit de me noter. On va parler de Cas Contraire, un film qui sort donc mercredi en 8, si j'ose dire, le 22 en tout cas. Mais d'abord, je vous présente Les Forces en Présence. Vous sentez, Sandrine Bonner, une tension particulière dans le studio, une sorte d'animosité diffuse. C'est normal, voici les deux journalistes d'Europe 1 qui se détestent le plus. Axel de Tarlé et Mathieu Charrier. L'un est expert économique, l'autre expert cinéma. Et depuis ce jour maudit où l'expert économique a voulu donner une leçon sur les chiffres du cinéma qui se porterait mal à celui qui est expert cinéma qui maintient que le cinéma va bien, ces règlements de compte à Hockey Corral par chronique interposée, les voilà réunis pour la première fois en studio depuis l'incident. Messieurs, ne serait-ce que pour Sandrine Bonner, je vous demande aujourd'hui d'enterrer la hache de guerre, de fumer le calumet de la paix. Mathieu Charrier, s'il vous plaît, faites le premier pas en reconnaissant qu'Axel est malgré tout un bon journaliste.
Oula, j'irai peut-être pas jusque-là.
Alors, Sandrine Bonner, je vous présente Mathieu Charrier, le monsieur cinéma d'Europe 1, qui cet après-midi va jouer les Alain Decaux en nous parlant de l'histoire du cinéma, c'est ça?
Oui, enfin l'histoire du plan séquence plus précisément, parce que mercredi sort
cette
un film
technique
formidable exactement qui s'appelle 1917, réalisé par Sam Mendes, qui est présenté comme un film en un seul et unique plan séquence.
Ce qui est faux.
En gros, alors c'est forcément faux parce que techniquement c'est quasi impossible, mais en fait à l'écran quand vous regardez le film vous ne le voyez pas. Je vous expliquerai pourquoi, d'où ça vient, pourquoi c'est formidable.
Un plan séquence, on peut déjà raconter ce que c'est, hein?
En deux mots, vous voyez pas que la caméra coupe, c'est-à-dire vous suivez des personnages pendant deux heures et vous avez l'impression qu'à aucun moment donné ça n'a été coupé ou monté derrière. Vous avez pas de champ contre champ, quoi. Vous suivez vraiment
un seul et même plan.
Un seul et même plan.
À ses côtés, donc, espérons que les bassesses passées appartiennent à un temps révolu, ce temps où il ne se privait pas pour jubiler à l'antenne.
Ah oui, là je me dis, Mathieu Charrier est au fond du trou.
Bonjour Axel de Tarlé.
Je maintiens.
Non, vous êtes l'expert éco d'Europe 1 et aujourd'hui vous nous parlez de la progression hallucinante des ventes du commerce en ligne. Vous allez nous raconter ce qui se passe en Chine, ce qui pourrait bien préfigurer ce qui nous attend demain en France.
Voilà, parce qu'il y a un phénomène nouveau, je sais pas comment vous faites vos courses, mais on achète beaucoup de choses sur internet et maintenant il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'on achète également nos denrées alimentaires, les courses alimentaires, on les fait sur internet et ça...
Les Chinois vont plus en supermarché.
Oui, mais même en France aussi.
Ah, même en France, ça commence.
Ouais, ouais. Voilà, et je vais revenir là-dessus.
Merci Axel, le programme est donné, l'équipe est sauvage, peut démarrer. Et franchement, messieurs, chapeau, ça fait plaisir de voir que malgré les différends que vous avez pu avoir, vous parvenez cet après-midi à rester courtois.
Si tu me doublais un jour, je te désosserai comme un gigot.
Oui.
Non, je rigole pas, oui. Je te débiterai comme un jambon.
Bon, très bien. Alors,
ça commence bien.
On commence quand même.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc Sandrine Bonner qui nous accompagne cet après-midi. Le 22 janvier, vous serez à l'affiche, Sandrine, de Cas Contraire, avec un K comme kétamine, on va voir pourquoi, film de Sarah Marx. Je raconte en quelques mots l'histoire. Vous interprétez Gabriel, vous êtes la mère d'Ulysse, un jeune homme de 25 ans qui vient de sortir de plusieurs mois de prison. On comprend très vite que c'est pas un mauvais bougre, en fait il est dans l'urgence, il est pris dans un engrenage dont vous êtes, bien malgré vous, un peu responsable car vous êtes très dépressive. Ce film est très fort parce qu'il dénonce quelque chose de très vrai, c'est-à-dire cet engrenage dans lequel on peut être très vite quand on sort de prison et qu'on est obligé de faire face à un quotidien et d'aider par exemple quelqu'un. 2500 euros, c'est ce dont il a besoin pour vous. Et 2500 euros, le SMIC, c'est pas 2500 euros. Donc à un moment, il faut trouver d'autres solutions. C'est assez terrible.
Oui, il n'arrive pas à rassembler cet argent. Mmh. Et puis,
Quand on sort de prison, voilà, on n'a pas une image forcément très, comment dire, très rassurante pour être employé. Donc du coup, eh bien, il va se mettre à faire du trafic de kétamine qu'il va distribuer dans des rêves parties. Et parallèlement à ça, sa mère, voilà, Gabrielle, qui est moi, très dépressive, est soignée par la kétamine.
C'est ce paradoxe qui
est ce paradoxe, voilà, qui est très intéressant.
Est-ce que certains rôles vous poursuivent? Parce que celui-ci, les gens vont le découvrir. Il est quand même, jouer la dépression, c'est jamais simple, on sent un rôle quand même compliqué. Est-ce qu'il y a des rôles qui vous poursuivent ou une fois que le film est terminé, vous retournez dans votre vie en oubliant complètement le personnage?
En général, j'ai tendance à oublier le personnage.
Assez vite.
Parce que je suis radicalement différente des rôles, heureusement d'ailleurs, sinon
heureusement
je serais sous Prozac depuis des années.
Vous êtes une immense actrice de César, comment on joue la dépression? J'imagine qu'il y a mille manières de la jouer, enfin, il ne faut pas être caricatural. Alors vous êtes parfaite dans le film, on ne va pas en faire des caisses là-dessus, les gens le verront. Mais comment ça se passe? C'est la réalisatrice qui vous dit « j'aimerais que la dépression, tu l'interprètes comme ça » ou vous dites « je fais une proposition, pour moi c'est comme ça », comment ça se passe?
La dépression, j'ai envie de dire que malheureusement, je la connais bien dans le sens où, on en parlait tout à l'heure, on parlait de ma petite sœur Sabine qui est autiste, et j'ai malheureusement traîné beaucoup dans les hôpitaux psychiatriques pour accompagner au mieux ma sœur, et j'ai été confrontée à des gens très très dépressifs, et du coup, voilà, j'en ai vu beaucoup, et je dirais pas que je me suis inspirée d'eux, mais je suis témoin en tout cas de pas mal de gens qui l'étaient.
Cas contraire, un film de Sarah Marx, bientôt sur vos écrans. Sandrine Bonner passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, un journaliste que j'adore, car comme moi, il fait toujours le pari de l'intelligence. Quand je me lance, par exemple, dans une digression philosophique pour illustrer le propos de tel ou tel chroniqueur, je sais que je peux compter sur lui pour me soutenir dans cette tentative de monter en gamme intellectuelle.
Je mise sur l'intelligence des auditeurs.
Oui, alors là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont compris. Hein.
Notre expert ciné vous explique aujourd'hui le principe du plan séquence.
Parce qu'il fallait regarder ce qu'il y avait avant, on est d'accord.
Serez-vous en mesure de comprendre ces explications? Il n'y mettrait pas sa main à couper. A tout de suite.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
Vous notez bien les livreurs de sushis et les chauffeurs de taxi. Pourquoi ne pas noter aussi les journalistes? En 2020, plus aucune corporation n'échappe à l'ubérisation. Chaque après-midi, vous votez pour votre journaliste préféré parmi nos quatre concurrents. Sous l'œil de notre invitée d'honneur, Sandrine Bonner, dont la voix comptera triple en fin d'émission. À noter, Sandrine, que vous votez sur le fond comme sur la forme. Vous avez par exemple parfaitement le droit de donner vos points à un journaliste que vous aurez trouvé incompétent mais sympathique. Lui, justement, il mise tout là-dessus.
Non, mais
sourire avenant, physique rigolo. Mathieu Charrier, c'est...
Non mais, Mathieu Noël.
Oh, c'est lundi, Matounet, on se connaît bien. Mathieu Charrier s'est peu à peu spécialisé dans le cinéma. Sa cinquième passion après la tartiflette, le pâté en croûte, le tourneau de Rossini et les pâtes aux langoustines.
Tu les plonges dans le courbouillon, tu les manges direct.
Explosion de saveur.
Et oui, en 2019.
C'est vrai, mais c'est dans l'angoustine fraîche, il faut préciser. Encore vivante.
C'est reparti.
Vous voyez, Sandrine, je vis avec des fous. Et peut-être que je le deviens moi-même. Mathieu, aujourd'hui, vous nous parlez d'une technique mythique du cinéma qu'Axel n'a pas compris, visiblement, vos explications de tout à l'heure, le plan séquence.
Alors, Axel, c'est quoi un plan séquence?
Bah oui, moi je ne sais pas ce que c'est qu'un plan séquence. Quand vous regardez doctement, mais on ne sait pas de quoi vous parlez.
Quand vous regardez un film, d'accord, vous voyez à l'image ce qu'on appelle des plans qui se succèdent. C'est-à-dire, par exemple, il va y avoir un gros plan sur vous, puis on va passer sur Mathieu Noël. Puis entre tout ça, il y a des coupes, c'est-à-dire que vous ne voyez pas tout ce qui se passe. Bon, un unique plan séquence, ça va être que la caméra ne s'arrête pas de filmer. Donc si je vous filme vous, puis Mathieu, puis Sandrine, bah, la caméra va suivre le mouvement, comme ça on va sortir par exemple du studio, bah, on va suivre Mathieu en sortant du studio.
Ça serait intéressant comme film.
Jamais couper la caméra.
Eh ben voilà, j'ai compris, merci.
Vous avez compris.
Mais alors, attendez, là si le film dure deux heures, on ne va pas tourner deux heures en une seule prise?
Non, c'est impossible, d'autant que c'est un film en 1917 sur deux soldats pendant la guerre des tranchées, donc évidemment, il y a des centaines et des milliers de figurants, il y a des explosions dans tous les sens, donc vous ne pouvez pas pendant deux heures suivre des soldats à travers différents paysages, différentes explosions, etc. Mais quand même, la prouesse, Sam Mendes, il refuse de dire évidemment combien il y a de vrais plans dans le film.
Oh, le coquinou.
Mais quand même, il explique, et ça se voit à l'écran d'ailleurs, que c'est à chaque fois des plans de 5, 6, 7 minutes.
C'est très
ce qui
long.
Est déjà énorme.
Qui est déjà énormissime, surtout dans un film comme ça, où il se passe plein de choses.
Et alors, comment c'est assemblé? Comment il a fait ce puzzle?
Alors,
finalement, sans qu'on
le voit. Finalement, il a, entre guillemets, rien inventé. Si vous remontez dans l'histoire du plan séquence, il y a le premier film, on va dire, présenté comme un seul unique plan séquence, c'était La Corde d'Hitchcock, qui était dans les années 40.
Ah oui, donc ça remonte.
Ça remonte. Hitchcock, ce qu'il faisait, il avait fait fabriquer des bobines exprès qui pouvaient filmer pendant 15 minutes, parce qu'à l'époque, c'était des bobines de quelques minutes. Donc, il avait fabriqué des bobines qui pouvaient filmer pendant 15 minutes, mais évidemment, pour que le film dure 1h30, il fallait quand même couper entre différentes bobines. Donc, lui, à l'époque, ce qu'il faisait, c'est qu'il arrivait, par exemple, sur le dos d'un personnage qui avait une veste noire. Hop, gros plan sur le dos, vous aviez un espèce de fondu au noir et on passait sur une autre bobine, donc c'était quasi invisible. Sam Mendes, il fait presque la même chose. Alors, évidemment, avec les moyens d'aujourd'hui, vous le voyez un peu moins, mais si vous regardez bien...
On le voit même pas du tout, je crois.
Si vous regardez bien pendant le film, vous allez suivre des personnages, des actions, etc. À un moment donné, par exemple, vous allez passer devant un poteau. Bon, ben, ce poteau, c'est le moment où ça a été coupé. Ou à un moment donné, vous allez avoir une explosion, vous allez avoir de la fumée qui va envahir l'écran. Hop, c'est le moment où ça a été coupé.
C'est génial.
Donc voilà, vous avez des petits moments comme ça où vous réussissez à couper le film.
Notre autre expert ciné a quelque chose à dire. Axel,
mon cher Axel, je vous écoute.
Non, j'ai une question à poser parce que vous êtes l'expert. si c'est un plan séquence qui n'a pas de coupure pendant 2 heures, ce qui veut donc dire qu'en fait, l'action se passe pendant 2 heures.
Exactement.
Donc tout se passe le même jour, ça commence à 8 heures et ça se termine à 10 heures.
Exactement. L'action, là, en l'occurrence, vous suivez deux soldats qui sont chargés par leur dirigeant d'aller porter un message à d'autres troupes pour leur dire de finalement pas mener une attaque, ce qui permettrait d'économiser, enfin de sauver des centaines de vies. Et donc vous allez les suivre comme ça sur le champ de bataille pendant 2 heures, effectivement. Ça n'est pas coupé.
C'est quoi l'intérêt cinématographique du plan séquence ?
L'intérêt dans un film comme celui-là, c'est que je trouve qu'on est presque au-delà de l'expérience cinéma. C'est-à-dire que vous êtes tellement impliqué dans la bataille avec ces soldats, vous les suivez, vous êtes physiquement avec eux, vous suivez la caméra, à un moment ils passent dans des tranchées, vous êtes sous terre, il y a des explosions, donc vous avez vraiment, c'est une expérience immersive quoi.
Et c'est pas un peu long, 2 heures
Alors très sincèrement, franchement vous les voyez pas passer.
Vous savez quoi, pour une fois j'ai tout compris ce que vous avez raconté, Mathieu Charrier. Sans vous dire, vous êtes sensible à l'aspect technique comme ça du cinéma, genre un film avec un plan séquence, ça peut vous bluffer ou vous vous dites ce qui vaut c'est la prestation des acteurs et le plan séquence en soi n'apporte pas
Effectivement, moi, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est quand il y a de la mise en scène. Et une caméra qui coupe pas, il faut préciser que quand on dit plan séquence, égale surtout brillante mise en scène. En général, c'est ça que ça veut dire.
Ce qu'il faut préciser, c'est que Sam Mendes, qui est un grand réalisateur, qui a réalisé des James Bond, etc., il vient surtout du théâtre. Avant, il avait réalisé des dizaines de théâtre, mise en scène, des dizaines de pièces de théâtre. Et il explique qu'en fait, pour ça, il a repris le principe du théâtre. C'est-à-dire qu'il a fait des dizaines d'heures de répétition avec tous les comédiens, etc., en leur disant, toi, tu passes là, tu fais ça, ça explose à tel moment, etc. Et donc, au moment où il disait, bon, allez, maintenant, c'est bon, je lance.
T'imagines, t'as un con qui fait la. c'est
la catastrophe. S'il y en a un qui fait mal son travail, alors c'est le boxon, faut tout recommencer, c'est infernal.
Et c'est vraiment la technique du théâtre appliquée au cinéma.
On remercie Mathieu Charrier. Axel, un mot sur votre concurrent qui serait susceptible de sceller votre réconciliation.
Moi, je ne voterais pas pour toi si j'étais moi.
Merci quand même. Europe 1. Sandrine Bonner est notre invitée à l'occasion de la sortie prochaine de Cas contraire, film de Sarah Marx. Et ma chère Sandrine, si vous avez décroché le César de la meilleure actrice, ce qui est déjà pas mal, imaginez la bouffée d'orgueil qu'il a dû avoir le jour où Axel de Tarlet a reçu le Dauphin d'Or du meilleur journaliste économique. C'était en 2003. Et depuis, son niveau d'exigence n'a pas baissé. Chacun de ses éditos échos est un bijou, comme le dernier en date.
Ben Bill Gates, il a qu'à en donner du fric.
Axel nous explique les chiffres effarants des ventes en ligne en Chine, juste après Ayo, Beautiful sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Se détendre et rentrer chez soi gai comme un pinson, sans pour autant éteindre vos cerveaux. Voilà le défi quotidien de l'équipe est sauvage, votre cocktail info et découverte de l'après-midi. 2 heures en compagnie d'un invité d'honneur qui, sans vouloir nous jeter des fleurs, repart souvent assez content. Sauf évidemment lorsque, comme vendredi, nous sommes en retard. Cadmerade était assez pressé, il avait un train dans la foulée.
Mais c'est qui le patron ici ? Appelez-moi Lagardère. Ah non, c'est plus Lagardère. Toujours Lagardère.
Si, si, on embrasse un factionnaire, c'est toujours Lagardère. Aujourd'hui, on est pile à l'heure pour Sandrine Bonner, à l'affiche le 22 janvier d'un film très marquant, Cas contraire de Sarah Marx, dont c'est d'ailleurs le premier film. On va revenir sur votre carrière dans un instant, Sandrine Bonner, mais quand on a tourné avec les plus grands réalisateurs, Piala, Chabrol, Sauté, Depardon, Rivette, Téchiné, qu'est-ce qui pousse à accepter de tourner dans un premier film ? Est-ce que c'est prendre un risque ou est-ce que c'est tout simplement normal pour une actrice célèbre de parfois tenter un premier film ?
C'est un peu... c'est le sujet en général qui m'interpelle, qui me fait accepter ou pas. Et puis, c'est vrai que j'aime bien l'idée de découvrir des jeunes talents, de partager avec eux. Parce que je trouve qu'il y a une fraîcheur, il y a... Voilà, il y a des idées nouvelles et je trouve ça chouette.
Cas contraire s'écrit avec un K majuscule comme kétamine, car il y a un autre thème de société très intéressant dans le film, celui des drogues thérapeutiques, puisque dans le film, votre fils trafique de la kétamine pour s'en sortir. C'est une drogue qu'on trouve dans les rêves parties et les discothèques pour les fêtards, mais c'est aussi un sédatif utilisé en médecine vétérinaire pour les bêtes et également un produit administré pour les profondes dépressions. À la fin du film, vous avez ce traitement-là. C'est ce paradoxe-là qui est incroyable sur les drogues thérapeutiques. Vous avez une position, vous, politique par rapport à tout ça? Pourquoi la kétamine est une drogue illégale pour les gens qui font des rêves parties et on s'en sert pourtant pour traiter la dépression et apparemment ça marche plutôt bien?
Ah bah ça, je vais bien le croire. Ouais. Hein.
Ça veut dire que vous avez testé pour le film, Sandrine Bonnat?
Non, mais j'ai vu sur Internet, enfin je me suis renseignée sur comment c'était, comment on appelle ça,
administré.
Ouais. Voilà. Et j'ai trouvé ça assez bluffant dans le sens effrayant. Effrayant parce que ce sont quand même des gros shoots. Ouais. Ça ressemble à de la drogue. Et pour moi, la vraie question, c'est, encore une fois, c'est soigner avec de la drogue, avec de la chimie, comme c'est le cas pour beaucoup, que ce soit pour le handicap mental. C'est vraiment ce qui m'a plu dans le film, en fait. Au-delà de la relation de la mère avec son fils, c'est le sujet de la kétamine qui m'a fait accepter de faire ce film. Parce que pour moi, ce sont de vrais questionnements. Donc je reste pour l'instant dans l'interrogation de ce genre de traitement.
D'ailleurs, comme le film, qui n'est pas du tout manichéen et donneur de leçons. Hein. C'est juste un film qui montre
une
réalité.
Tout à fait. Et c'est juste ce que j'ai dit à Sarah Marx et aux producteurs. Je leur ai dit, moi, je ne veux pas cautionner ce traitement. On reste ouvert sur...
Mais d'ailleurs, votre fils réagit très violemment quand il sait que le médecin veut vous administrer de la kétamine.
Parce que pour lui, c'est juste de la drogue.
C'est juste de la drogue et il connaît les effets en tant que drogue. Quoi. Donc,
il a tout à fait raison de réagir comme ça. Puisque, en plus, lui, il est condamné pour faire ce genre de choses. Donc, c'est quand même totalement antinomique. Quoi. Ouais. C'est d'un côté.
Après, tout est question de dosage. C'est tout la question qui peut se poser d'un point de vue de la société. C'est qu'il ne faut pas que ce soit les mêmes doses, évidemment, que ce qu'on prend en soirée. Elle sera le 22 janvier à l'affiche de Cas contraire avec un K, le premier film de Sarah Marx. Sandrine Bonner est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, dans une émission où souvent j'invente et je caricature, j'aimerais préciser que ce qui suit est vrai. Vendredi, je reçois un SMS d'Axel de Tarlé, notre expert éco, me disant « Mathieu, lundi, il faut impérativement que je passe en première partie, car j'ai une formation anticorruption à 17h ». Là, je me demande, tiens, pourquoi de tous les journalistes d'Europe 1, c'est Axel qui a été sélectionné pour une formation anticorruption? Et puis soudain, je me souviens, et comme on dit, ça fait tilt.
Moi, je fais la com' de Michelin, là, hein, je vous dis tout de suite. Michelin, comme c'est les meilleurs pneus du monde, équipez-vous d'excellence en matière de pneus, équipez-vous de pneus Michelin. Je fais une petite pub, là, hein.
C'est vrai que c'était un peu gros. À tout de suite avec le bientôt incorruptible Axel de Tarlé.
Europe 1, l'équipé sauvage, 16h, 18h. L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire. Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures pour départager les meilleurs journalistes d'Europe 1 tout en apprenant à mieux connaître un invité vedette. Aujourd'hui, c'est l'immense comédienne Sandrine Bonner qui nous accompagne pour évoquer la sortie le 22 janvier prochain de Cas contraire, le premier film de Sarah Marx. Quand on voit votre carrière aujourd'hui, Sandrine, on peut penser... Il y a quelque chose qui relève du miracle. Vous avez dit, j'ai fait de la figuration dans la boum et les sous-doués en vacances grâce au père d'une copine pour gagner des sous. J'ai trouvé ça tellement chiant qu'il m'est arrivé de partir avant la fin. Je n'avais aucune envie d'être actrice. Je me souviens de m'être dit, si c'est ça le cinéma, au secours. Ça, c'est les débuts de Sandrine Bonner, quoi.
Ben ouais.
mais quand on pense à tous les jeunes aujourd'hui qui rêvent d'être acteurs, qui feraient tout pour un casting et tout, vous, en fait, c'est plutôt par hasard presque que vous avez fait ça au début.
C'est arrivé tout à fait par hasard. Mais tout début au cinéma, c'était surtout de la figuration. Donc c'est pas très intéressant de faire de la figuration.
Palme d'or pour Sous le soleil de Satan. Vous avez eu le César du meilleur espoir à 16 ans. Ensuite, le César tout court à 18 ans. Entre 16 et 18 ans, il se passe tellement de choses. Comment on fait pour garder les pieds sur terre? Parce que là, beaucoup répéter les plombs, quoi. Enfin, un tel succès si vite.
Mais alors justement, il n'y a pas de quoi péter les plombs. Quand tout vous arrive formidablement bien, ça ne peut que vous rendre serein. Moi, je ne comprends pas les gens qui se...
Ah oui.
Pour
la
moi,
grosse tête, quand vous croisez des collègues qui ont la grosse tête, vous ne comprenez pas comment ils l'ont attrapé?
Ben non, je ne comprends pas parce que je trouve que c'est un métier, quand on a la reconnaissance, l'argent...
Ça doit apaiser plutôt quelque chose.
Ça doit plutôt apaiser, c'est-à-dire qu'on n'a aucune angoisse à avoir. On a tout. Vous voyez, c'est quand même...
Ouais. Tout le monde ne l'a pas. Lui, il a toujours su garder les pieds sur terre, pourtant avec un dauphin d'or sur sa cheminée. On aurait pu comprendre qu'il pète les plombs. Tout à l'heure, il assistera à une formation anticorruption, conséquence probable de ce qu'on avait appelé en interne à l'époque l'affaire Seb, où parce que sa femme lui avait réclamé une nouvelle centrifugeuse, il était allé un peu loin.
Seb, entreprise française, qui est le numéro 1 mondial, vous entendez, mondial du petit électroménager. Pourquoi ? Parce que Seb a toujours un coup d'innovation, un coup d'avance en matière d'innovation. Seb.
Cette formation va vous faire du bien et à nous aussi. En attendant, vous nous parlez à présent un petit peu des Chinois. Qu'est-ce qui se passe en Chine ?
C'est que c'est vrai, mais les extraits que vous avez passés.
C'est terrible.
Il faut que je me calme, pardon.
La formation, on dit, vous vous défoncez la formation. Aujourd'hui, Axel, vous nous parlez de ce qui se passe en Chine en termes de commerce en ligne, où ça explose encore plus que chez nous.
Oui, mais ce qui est très intéressant, c'est que surtout, ce que je disais, c'est qu'on fait nos courses alimentaires maintenant sur Internet. Et ben, or, vous savez que l'alimentaire, c'était ce... Enfin, je commence ma chronique, là, en fait.
Ah oui, complètement, oui, Axel, oui. Oui. Quel professionnel. Avant, il y a eu un teasing, comme d'habitude, comme tous les jours, en fait, Axel. Il y a ton teasing, puis là, c'est le moment de la chronique, en fait, où il faut que tu fournisses une information, parce que je ne vais pas parler tout le temps, non plus, avec Sandrine, on ne va pas faire toute l'émission, tous les deux.
Voilà. Le phénomène nouveau, c'est que pendant très longtemps, on a dit, il y a une chose qu'on n'achètera pas sur Internet, c'est la bouffe. Pourquoi ? Parce qu'une tomate, on a besoin de la sentir, on ne va pas commander une salade, une laitue sur Internet.
Pourquoi pas finalement ?
Eh bien, vous avez raison. Bah, pourquoi pas finalement ? Et effectivement, ça vient d'Asie. Alors, en Asie, 20% maintenant des denrées alimentaires en Corée sont commandées sur Internet. Et en France, c'est déjà 6%. Et ça augmente de 10% chaque année. Et donc, c'est terrible pour les hypermarchés parce qu'ils s'étaient tous dit « on va se recentrer vers l'alimentaire en misant là-dessus pour survivre ». Et donc, eh bien, ça aussi, c'est en train de partir sur Internet.
Quand je vais dans mon hypermarché en Normandie, pour ne pas le citer, mon Leclerc, il y a toujours autant de monde, Axel. Hein. Je vous garantis que les gens vont toujours faire leurs courses.
Non, les hypermarchés sont en crise. Demain, d'ailleurs, il y a Auchan qui va annoncer un plan de 1000...
Mathieu Charrier a aussi un avis sur le commerce. Hein.
Il fait départ volontaire. Non. Le modèle, c'est la France qui a inventé l'hypermarché. Hein. C'était Saint-Geneviève-les-Bois en 1963. Ouais. L'hypermarché est en crise.
Ça, c'est indéniable. Mathieu Charrier ?
Non, parce qu'on parle toujours aujourd'hui des circuits courts, des gens qui essaient de se fournir plus local, de savoir d'où ça vient. C'est quand même très antinomique avec le fait d'acheter sur des sites dont on ne sait pas d'où viennent les
ordres. Alors, vous avez raison, l'hypermarché est attaqué de toutes parts. Il est attaqué à la fois par le e-commerce et il est attaqué par tous les circuits courts, le bio, les petites boutiques, etc.
Voilà.
Oui, mais ma chronique, c'est l'hypermarché va mal.
Donc,
je ne juge pas.
Axel, les gens qui commandent de l'alimentation sur Internet, ils passent par les hypermarchés, par les marques des hypermarchés.
Et oui, alors vous posez l'excellente question. Ah. On va commander nos denrées alimentaires par Internet. Mais maintenant, il y a un choix. Est-ce qu'on va aller sur Auchan ou Carrefour pour commander ses denrées alimentaires ou est-ce qu'on va aller sur Amazon?
Voilà. Ah oui.
Eh ben non.
Que font les Français?
Il y a un vrai débat.
Ben
jusqu'à présent, Auchan et Carrefour avaient gagné. C'est la technique du drive. Aujourd'hui, les gens achètent beaucoup sur Internet. Depuis leur salon, ils commandent. Et vous savez, ensuite, ils vont dans le magasin, on leur met les cartons dans le coffre. C'est le drive. Mais sauf que de plus en plus, maintenant, ça, c'est un peu daté comme technique. Maintenant, les gens veulent la livraison à domicile.
Ah oui, c'est vrai. Ça ne marche pas, le drive.
Ouais, le drive, les gens en ont un peu assez. En fait, ils trouvent que c'est mieux d'avoir ces courses qui arrivent. Et donc, la livraison à domicile, pour le dernier kilomètre, Amazon est imbattable.
Mathieu Charrier.
Mais d'ailleurs, Amazon, pour l'instant, ne livre qu'avec des partenariats avec Monoprix, etc. Donc, il s'appuie sur la grande distribution.
Voilà, le signal inquiétant, c'est Monoprix qui a décidé de faire la livraison à domicile, qui a essayé de le faire tout seul, ils n'y arrivaient pas, et donc ils ont fait appel à Amazon.
Ben voilà.
Vous voyez, Amazon commence à mettre un pied dans la livraison alimentaire.
Sandrine Bonner, vous êtes plutôt achat en supermarché, en hypermarché, circuit court ou Amazon?
Moi, je suis plutôt... Puis j'ai la chance d'habiter un quartier où il y a beaucoup de commerçants, de petits commerçants. Cher, par contre, hein, Paris. Mais je privilégie le boucher de quartier, le primeur de quartier, ce genre de choses.
Mais encore faut-il le pouvoir, parce que le problème, c'est qu'à Paris, on peut le faire. Moi-même, je
voilà,
le fais.
Mais en province,
il n'y a plus
banlieue,
le petit boucher, il n'y a plus le fromager.
Ouais, c'est vrai. Voilà.
Alors, de plus en plus, les maires essayent de faire en sorte de fermer ces zones commerciales à la périphérie des villes et de faire renaître un centre-ville. C'est une attaque supplémentaire contre le modèle de l'hypermarché.
Qui décidément se porte mal, contrairement à ce que disait Mathieu Charrier.
Je ne fais absolument pas la défense des hypermarchés. Oui, je suis prêt pour. Ça sert à rien que j'aille faire ma formation contre la corruption. Je suis parfois capable d'un regard très lucide.
À mon avis, il y a deux visites qui viennent vous chercher. Un coup de fil du patron de Carrefour, à mon avis, et ça peut faire basculer votre jugement. Je vous connais. Merci Axel de Tarlé. Mathieu Charrier, un mot fair play pour saluer quand même le travail de votre rival, mais néanmoins confrère.
Si on l'avait pas, je suis pas sûr qu'il faudrait l'inventer.
Merci pour lui. Elle a tourné avec Piala, Rivette, Sauté, Chabrol, Téchiné, Varda, Lelouch et même Brian De Palma. Pourtant, Sandrine Bonnaire se sent toute petite au moment d'affronter Eva Rock dans le cadre de notre fameux quiz dont la thématique avantage toujours l'invité au détriment de cette pauvre Eva. C'est un peu comme si aujourd'hui on avait prévu un quiz sur le thème du cinéma.
Oh non.
Quoi ? C'est vraiment ce qu'ils ont prévu ? Oh les salauds !
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. Deux heures pour étoffer votre culture G sans pour autant vous péter un euro, en compagnie d'un invité vedette qui souvent se confie chez nous plus volontiers encore que chez son psy. Vendredi, c'est l'acteur Kad Merad qui s'est allongé sur notre divan et qui nous a avoué qu'après toutes ces années, et malgré tous ses grands rôles et même un César, les gens continuaient de le renvoyer à ses sketchs parfois un peu olé olé sur comédie.
Je ne serais jamais pris au sérieux à cause de tout ça. J'aurais voulu être un acteur un peu compréhensif, à qui on ouvre la porte, voilà, là, rien du tout. Et merde, putain, j'ai été nominé au Emmy International Award, mon Dieu, nom de Dieu. J'ai été battu par Kenneth Branagh. Tout le monde s'en fout. Ouais, Kamoulak, Manitas, ta bite. T'es un médiateur au bout du gland ? Non !
Un artiste qui s'épanche, une oreille qui l'écoute, surmontant un cœur compatissant, c'est ça aussi, l'équipe est sauvage. Aujourd'hui, aucun risque, elle a fait très peu de sketch potage sur comédie. C'est Sandrine Bonnaire qui nous accompagne. Sandrine, vous serez le 22 janvier à l'affiche de Cas contraire, premier film de Sarah Marc. Vous avez cette image, peut-être tout à fait injuste, d'être assez sage. Vous avez pourtant eu une adolescence, j'ai lu, assez rebelle. À 12-14 ans avec votre sœur, c'est vrai que vous partiez à l'aventure en autostop.
Oui.
Sans le dire à vos parents, évidemment, enfin en mentant.
Sans le dire aux parents, avec 10 francs en poche pour 5 nanas.
Ah oui.
Oula.
C'était risqué quand même.
C'était assez risqué.
Ah oui.
Mais on était très, très habiles. C'est-à-dire qu'on. On n'était pas allumeuses, mais on était, comment dire, assez. Déjà assez attrayantes. Et ah assez oui. Maligne pour mais se faire payer à manger sans être... coucher.
Ah bah oui, mais ça peut être un danger d'être attrayante, j'allais vous dire, avec tout ce qu'on entend.
Ouais, alors je ne sais pas si c'est une question d'époque ou quoi, si le monde d'aujourd'hui est plus dangereux, ou
vous
si
le pensez
c'est
pas
parce qu'on en parle plus, je ne sais pas.
C'est peut-être parce qu'on
mais
en parle
je vous
plus.
Avoue que si ma petite Adèle, oui, qui a 15 ans, partait en stop, je serais terrorisée.
Avec 10 francs.
Avec 10 euros, 1,50€,
elle irait pas très loin, cela dit. Alors, Sandrine Bonnaire, la séquence qui vient dans notre émission est aussi risquée, je dirais, qu'une tarte au citron. Ça peut être délicieux, comme ça peut être dégueulasse. Voici notre traditionnel quiz. Sandrine Bonnaire, en hommage à votre carrière cinématographique qui donne le tournis, on va faire un quiz 7e art. Vous êtes opposée à Eva Rock. Principe simple, je vous donne des phrases, vous me dites si elles sont issues ou non d'un film. Je vous rassure, vous n'avez pas me donné le titre du film. Sandrine, on commence avec vous. Est-ce qu'on accuse un poteau de remplir un trou ? Il se peut qu'au fond du trou, il y a un terrier de lapin et que le poteau les écrase, mais est-ce la faute du poteau si c'est juste un trou fait pour lui ? Film ou pas film ?
Oh mon Dieu.
Pas film, moi, je dirais.
Pas film ? Vous êtes sûr ?
Non, mais je vais dire pas film.
Vous dites pas film ? Faites-moi plus confiance quand je vous fais des clins d'œil. C'était un film, on l'écoute.
Est-ce qu'on excuse un poteau de remplir un trou ? Il se peut qu'au fond du trou, il y a un terrier de lapin que le poteau les écrase, mais c'est la faute du poteau s'il s'ajuste à un trou qui était fait pour lui.
Vous l'avez reconnu ou pas ?
C'est du Audiard ou pas ? Non.
Alors déjà, c'est un de mes acteurs préférés.
Ah, Jean-Pierre Marielle ?
Qui nous a quittés trop tôt. Il nous a quittés avant Jean-Pierre Marielle, avant Jean Rochefort. Il y avait un autre dans le...
Philippe
Noiret. Philippe
Noiret,
bonne réponse. D'Axel de Tarlé.
Il l'a dit il y a 5 minutes.
Oui, oui.
C'est vrai,
ah non,
je suis entendu. Un expert en cinéma.
Et c'est dans quel film ?
Ah, c'est dans Coup de Torchon.
Ah, Coup de Torchon, d'accord. Ah oui.
Eva Rock.
Oui.
Hier, dans mon bain, je me suis caressée. C'est pas la première fois, mais là, je suis arrivée en haut. Avoir un orgasme, c'est médical, alors je dis arrivée en haut. Et vous, comment vous dites ? Film ou pas film ?
Non, c'est pas film, ça c'est vous en train de parler de vous dans votre bain. Parce que vous avez dit dans une interview à Télérama que vous preniez toujours des bains. Donc j'imagine que c'est vous.
Parenthèse, ma copine elle m'a dit qu'est-ce que c'est cette connerie ? C'est... Pourquoi tu prends pas des bains en écoutant Christophe Ondelat ? Oui, j'ai un peu raconté n'importe quoi dans cette interview. Alors film ou pas film,
bah, Eva ? Non, pas film.
Pas film, vous êtes sûr de vous ?
Ah bah oui, non,
oui,
mais
voilà.
Bon, pas film.
D'accord,
si,
très
film.
Bien.
Film.
Eh oui, film. Et regardez même film, et ça prouve que. Bref, écoutez.
Hier soir dans mon bain, je me suis caressée. C'est pas la première fois, mais là, je suis arrivée en haut. Avoir un orgasme, ça fait médical. Alors je dis arrivé en haut. Et vous, comment vous dites ?
Comme c'était quoi, vous connaissez mal la filmographie de Sandrine Bonner, Eva Roch.
Ah bah carrément, c'est
et
dans
oui,
quoi
c'était Sandrine dans Confidence trop intime. Vous parlez à Fabrice Luchini. Le film était réalisé par Patrice Lecomte. Belle rencontre, Fabrice Luchini.
Très belle rencontre. Très joli ce film de cul qu'on a fait ensemble. Je fais pas beaucoup de comédies. En revanche, les pornos, j'en ai fait quelques-uns.
Le Fabrice Luchini qui disait, je crois en interview, qu'il vous prenait pour quelqu'un d'assez froid. Il avait
d'un
un peu
télo,
peur de vous rencontrer d'un télo chiant limite. Et puis il vous a rencontré, il vous a dit oh, en fait c'est super.
Tout à fait. Et moi je le trouvais. Je me disais il va me prendre la tête. Il est tellement bavard, tellement. Et c'est rigolo parce que dès le premier jour de tournage, d'ailleurs c'est lui qui m'a dit oh t'es vachement sympa et tout ça finalement.
Finalement. Tout était dans le finalement.
Il m'a dit qu'est-ce que tu penses de moi. J'ai dit bah écoute je t'aime bien aussi finalement. et on s'est beaucoup apprécié. Je l'aime beaucoup Fabrice.
Eva Roch.
Oui.
Tu me feras pas visiter le château de Versailles. Après tout c'est comme si on visitait chez des gens qu'on connaît pas. Film ou pas film.
Ah non c'est un film ça.
C'est votre réponse ?
Oui.
Tant mieux, c'était pas ça.
Ah non !
Écoutons.
Tu ne me feras pas visiter le château de Versailles. Après tout, c'est comme si on visitait chez des gens qu'on ne connaît pas.
Rien qu'elle a le jingle, vous devez reconnaître.
Mais elle a dit film.
J'ai dit film.
C'est pas un film, c'est Palace. C'est un film Palace.
Mais il triche avec.
Mais je ne triche pas.
Ah,
mais
bien, ce sont dur.
Toutes les phrases sont vraies, c'est pas
d'accord.
Des phrases que j'ai inventées, sinon
d'accord.
Ça n'a pas de sens. Ah oui, oui, elles sont dans un film ou pas un film. Si c'est pas un extrait d'une série, si c'est de Maggie par exemple, mais c'est pas un extrait de
d'accord.
Film.
C'était mal expliqué.
Oui, c'était mal expliqué. Merci
beaucoup. Et maintenant, vous avez une réclamation au CSA. Sandrine Bonner.
Il est chiant, mais
je l'ai déjà dit. Sandrine Bonner, je prie à mort le dieu des fesses qu'il me laisse pas sans gonzesse. Film ou pas film. C'est votre
non.
Réponse. Non. Bonne réponse.
C'est une chanson.
C'est une chanson, ouais.
Comme bah oui. Quoi, Mathieu Chéri, comment
vous
faites fonctionner
rime.
Votre cerveau.
Ouais.
Ça...
Je prie à mort le dieu des fesses qui me laisse pas sans gonzesse.
Je ne sais pas ce que c'est Tristan qui chantait Bonne Humeur ce matin, mais ça sent bon les années 80.
Ah oui, 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 ouais.
Je suis de bonne humeur ce matin. Il y a des matins comme ça.
Oh, la mais oui,
ça, ça vous date.
C'était bien ça, j'adorais.
Ça vous date encore mieux que le Carbone 14, ça. À la surprise générale, Sandrine Bonner remporte un quiz cinéma contre Eva Roch. C'est décidément possible sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, pas d'extrait sonore décalé pour annoncer la prochaine rubrique puisque nous partons en Allemagne retrouver Hélène Kohl, notre correspondante à Berlin, où une pub Netflix fait polémique. Non, parce que les sons décalés, c'est bien, mais parfois quand l'actu est sérieuse, voire dramatique, si c'est pas le bon son qui part, c'est un peu la tuile. J'aurais d'ailleurs une pensée émue pour nos confrères de France Info jeudi dernier.
Lorsque le 777 de Malaysian Airlines avait été abattu accidentellement en vol au-dessus de l'Ukraine en juillet 2014.
Merci à vous Frédéric Beniada, spécialiste aéronautique à France Info. Il est 8h24.
Voyage.
Non.
Ça c'était Désirless. Moi j'attendais plutôt Isabelle Labéry. Bonjour Isabelle.
Voilà donc parfois, mieux vaut faire sobre. On se retrouve juste après Les Innocents. Color sur Europe.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
L'équipée sauvage continue avec Sandrine Bonner. 2 heures sur cet étroit filin qui sépare le journalisme du divertissement. 2 heures aussi au plus proche de vous, chers auditeurs, au plus proche de vos préoccupations, de votre quotidien. Bon, sauf quand on reçoit Cadmerad et qu'il se fait une tache sur son pull.
C'est filmé ? Je viens de mettre un pull de... Qu'est-ce que c'est celui-là ? Louis Vuitton, pardon.
L'équipée sauvage parfois proche de vous, notamment grâce à notre décrochage régional qui parfois, quand on a du budget, se transforme même en décrochage international. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Hélène, vous êtes notre correspondante en Allemagne. On connaissait l'expression « s'en remettre à Dieu ». Eh bien, une paroisse de Wuppertal, dans l'ouest de l'Allemagne, a décidé de s'en remettre à Netflix pour trouver l'argent nécessaire à la rénovation du clocher de son église. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Hélène ?
Eh bien effectivement, depuis la semaine dernière et pour 14 jours au total, le sommet de l'échafaudage qui entoure l'édifice religieux est recouvert de gigantesques bannières publicitaires pour Netflix, pour la plateforme de streaming. Ça fait comme un gros cube visible de partout dans le centre-ville de Wuppertal. Et sur les faces de ce cube, il y a donc une pub pour l'une des toutes dernières séries de Netflix, Messia, qui imagine en fait le retour de Jésus parmi nous dans le monde actuel.
Jésus en 4x3 au-dessus de la ville donc.
Exactement, alors ça tombe plutôt bien, hein. Imaginez si on avait eu des affiches de Breaking Bad ou même de New Pope. Hein. La paroisse n'a pas accepté en fait sans avoir étudié la question, ils s'y sont mis à trois théologiens, ils ont fait en fait l'exégèse de la bande-annonce de Messia et finalement ils ont jugé que c'était pas trop un blasphème. Il faut préciser aussi que c'est une paroisse protestante et donc le bâtiment religieux en soi n'est pas sacré comme nous l'explique la diaconesse Sabine Dermann.
Je pense qu'il doit y avoir des limites. Une pub directement sur l'autel, par exemple, ce n'est pas possible. Dans l'église, il faut pouvoir se concentrer sur la parole prononcée. Et une pub pourrait déconcentrer les fidèles. Mais sur le bâtiment à l'extérieur, je ne vois pas de problème.
Et la femme d'église est même assez fière de son coup, car depuis qu'elle a donné son feu vert à cette publicité, elle a regardé l'intégralité de la série et elle est accro, figurez-vous.
Alors, on a envie de savoir, Hélène, ça rapporte combien d'argent cette histoire ?
Alors, ça rapporte quand même 21 000 euros pour 2 semaines de pub, donc ce n'est pas négligeable pour cette petite paroisse qui a besoin au total de 1 200 000 euros pour rénover son clocher. Et puis en plus, le buzz autour de cette campagne de pub a le mérite de faire connaître la situation financière de l'église et d'intéresser les donateurs. Et effectivement, depuis que la pub est installée, la cagnotte a bien gonflé depuis quelques jours. L'église pense même accepter d'autres publicités après celle-ci, mais pas question quand même de vendre son âme au diable. Hein. Chaque proposition sera étudiée au cas par cas. Et par exemple, la diaconesse m'a dit, les sous-vêtements ou l'alcool, ça sera non.
Ah, dommage.
Quel dommage. Ouais. Moi, j'ai bien des idées de publicité avec Eva Rock, mais je peux pas en parler à cette heure-ci. Merci Hélène Cole, correspondante d'Europe 1 à Berlin.
Europe 1.
Nos deux premiers journalistes en compétition se sont affrontés sous l'œil de Sandrine Bonner, notre invitée arbitre, qui, au moment de les saluer, leur glissera certainement un petit message sympa comme Cadmera vendredi.
Merci, bravo.
Merci, messieurs.
Vous avez de la chance, vous partez, vous.
Car oui, c'est également le moment où l'invité qui avait calé un spa au Georges V dans la foulée réalise que l'émission ne dure pas une, mais 2 heures. Mais vous allez voir, Sandrine Bonner, le jeu en vaut la chandelle puisque deux nouveaux concurrents s'échauffent. On parlera notamment de ces ratés des nouvelles technologies qu'on n'avait pas vu venir quand l'intelligence artificielle se mêle du recrutement et quand les voitures autonomes partent en sucette. A tout de suite.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Axel de Tarlet va bientôt nous quitter. Vous voulez nous dire pourquoi Sandrine Bonner devrait penser à vous tout à l'heure au moment du vote ? Vous ne serez pas là, vous serez en formation anti-corruption.
Oui, je serai en formation anti-corruption.
Vous aviez, donc, je crois.
Voilà. Mais je disais, ma chère Sandrine Bonner, il faudrait quand même penser à voter pour moi parce que dans le cas contraire, je serais très triste. Cas contraire, vous avez tous reconnu.
Vous inquiétez pas, c'est la mi-temps pour les valeureux concurrents de l'équipe sauvage. L'émission qui combine avantageusement l'exigence journalistique d'une soirée théma d'Arte et l'esprit compétitif d'un film de Stallone, grâce à Eva, notre Adrienne, qui trouve toujours les mots pour motiver nos champions.
L'angoisse que tout le monde va essayer de te dépouiller, la peur qu'on se souvienne de toi comme d'un lâche, la peur de ne plus être un homme.
Car chaque après-midi, au service de votre savoir, ce sont les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui s'affrontent pour le titre de chroniqueur du jour, enfin, les meilleurs. Par ces temps de grève, on dira plus modestement ceux qui réussissent à venir bosser. Fred Goetti,
votre connaissance musicale va bien au-delà du jazz, puisqu'aujourd'hui vous allez nous permettre de nous la péter dans les dîners en faisant semblant de tout connaître de Jimmy Page.
Et oui, qu'est-ce qu'il faisait Jimmy Page avant Led Zeppelin ? Il était musicien de studio. Alors, c'est quoi un musicien de studio ?
C'est un musicien qui joue dans un studio.
Voilà.
Super, une nouvelle heure se profile, de nouveaux concurrents arrivent, on parlera de l'Australie qui continue de flamber et des nouvelles technologies qui parfois nous font bugger. Toujours en compagnie de Sandrine Bonner pour la sortie le 22 janvier de Cas Contraire. Oui Axel, Cas Contraire. Mais je reconnais le doux carillon d'Europe 1.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage est de retour pour une deuxième heure encore plus éclectique que la première. Axel de Tarlet, notre expert éco, nous a quitté pour filer à sa formation anticorruption. Non sans saluer une dernière fois ses sponsors.
Vuitton, Dior, Fendi, oui. Berluti, oui. Chaumet, oui. Tagoeur, mais aussi oui. Bulgari.
Oui, merci Axel, ça va pas lui faire de mal cette formation. La compétition continue les amis, deux nouveaux journalistes nous ont rejoints pour tenter de décrocher la rutilante couronne de chroniqueur du jour. Sous l'œil complice mais redoutable de notre invitée d'honneur Sandrine Bonner pour la sortie le 22 janvier d'un premier film très réussi, Cas Contraire de Sarah Marx. On continue d'en parler évidemment, le temps ma chère Sandrine de vous présenter nos deux ultimes compétiteurs. À ma gauche, vous le savez Sandrine Bonner, les hommes très beaux sont souvent décevants. Bien souvent, le ramage n'est pas à la hauteur du plumage. Et une fois qu'on creuse un peu, qu'on essaye de voir si sous la gravure de mode il y en a dans le ciboulot, on se retrouve face à cette désolante réalité, le belâtre n'est que beau. Heureusement, il y a des exceptions. Et je suis heureux de vous présenter Anissé Mbida, notre expert nouvelle technologie, qui est beau certes, mais aussi intelligent et même féru de cinéma. Démonstration Anissé.
C'est la soupe aux choux, tu vois.
Formidable discussion que vous pourriez avoir tous les deux. Bonjour Anissé.
Bonjour Mathieu, je savais qu'il y avait une petite vanne derrière.
Ça ne pouvait pas être que du compliment gratuit. On se souvient Anissé du fameux bug de l'an 2000. Finalement, il n'avait pas eu lieu. Mais voilà qu'on redoute maintenant le bug de l'an 2020. Et ça ne serait qu'un des multiples ratés des nouvelles technologies en début d'année.
Oui, ouais, je vais parler de la théorie du chaos, hein, le petit papillon au Brésil qui déclenche une tornade dans le Texas. Eh bien, ça se passe énormément en matière informatique. C'est pas des papillons, hein, ce sont des petites décisions qui ont des conséquences très lourdes, très très lourdes. Des années plus tard, on va en parler sur Windows, on va en parler sur le bug de l'an 2020 et on va en parler aussi sur les voitures autonomes.
À ses côtés, Sandrine Bonner, fera-t-elle mentir les statistiques ? Virginie Fulpin, notre éditorialiste sport, nous entraîne en Australie. Or, les chiffres sont clairs. Les chroniques évoquant l'international ont 30% de chances en moins de plaire à l'invité que les chroniques qui se passent en France, et même 97% de chances en moins quand l'invité est cadmérade. Emmanuel Duteil en a fait les frais vendredi.
Alors, le pays est sous choc, vous en avez sûrement tous entendu parler, la reine d'Angleterre.
Oh oui, oui, on a entendu parler.
Le Brexit.
J'espère que vous n'allez pas en parler en tout cas, parce que...
Non.
Moi je suis saoulé là. C'est ça votre... Ah bah d'accord.
Bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sûr que vous voulez nous emmener en Australie? Déjà l'Angleterre ça fait loin pour nous inviter visiblement.
Ouais, je vais parler moins de tête couronnée on va dire.
C'est donc ça,
voilà, c'est ça qui peut faire la différence, enfin, j'espère. Donc l'Open d'Australie de tennis commence aujourd'hui, en tout cas ce sont les qualifications, c'est-à-dire les joueurs et joueuses les moins bien classés qui essaient de se qualifier pour le grand tournoi. En ce moment, évidemment, on le sait, les incendies ravagent l'Australie.
Toujours.
Donc, je pensais que peut-être ce tournoi allait être reporté.
Pas du tout.
Les organisateurs ont fait semblant et ils s'en foutent. On joue au tennis comme si de rien n'était. Et c'est un petit peu choquant.
Quel sujet emportera vos suffrages ? L'open de la honte ou bug en cascade quand les nouvelles technologies dérapent ? Ce qui d'ailleurs ferait un excellent titre pour Enquête exclusive sur M6. Réponse juste avant 18h. En attendant, je me tourne vers notre invité d'honneur. Un charisme inouï, une carrière qui donne le vertige. Mais qui est pour vous Sandrine Bonner ? On est allé vous poser la question.
Sandrine Bonner, oui, on la connaît, c'est une actrice. Bah oui, elle est super Sandrine, elle est adorable.
Une jeune femme, voilà, pas très grande, mince, un visage un peu carré et cheveux châtain clair.
C'est pas elle qui voulait pas offrir de cadeau à ses enfants ? Ah, c'est Binoche, je confonds.
Sandrine Bonner, bah c'est une jolie femme.
Je pense que c'est d'abord une belle personnalité.
Qui a commencé chez Piala, c'est ça ? Non, elle a pas commencé chez Piala, elle a commencé chez Agnès Varda et...
Il y avait une de ses sœurs qui faisait le casting pour Piala. Et alors elle lui dit... Bah, accompagne-moi, je suis pas très à l'aise. Et en fait, Piala a choisi celle qui n'était pas prévue pour le rôle. C'est-à-dire Sandrine Bonner qui a fait une carrière d'actrice.
Surtout qu'elle est d'un milieu populaire et c'est un milieu où c'est pas facile de réussir.
Oui, alors bah, Sandrine Bonner, et bah, merci beaucoup pour ce magnifique reportage sur Jacques Higelin qui était passé sur Arte.
C'est une très bonne actrice.
Pourquoi les amants,
après s'être tant aimé avant, oublient juste
après
tout le bien qu'ils se sont.
On vous entend ici avec Jacques Higelin. C'était une rencontre récente quand vous avez décidé de faire le documentaire sur Jacques Higelin. Comment ça s'est passé ? Comment Sandrine Bonner se retrouve à faire un documentaire sur Jacques Higelin ? Il vous fascinait ?
En fait, j'avais rencontré Jacques dans un train, comme ça, tout à fait par hasard. Ouais. Et puis, il est venu vers moi, me saluer. On s'est un peu tombé dans les bras, j'avoue. Dans le sens où on s'aimait beaucoup. Enfin, j'adore la carrière d'Higelin. Et puis, lui, apparemment, aimait la mienne aussi. Et il m'a proposé de chanter avec lui. Donc du coup, j'ai accepté. Et puis, bah, l'idée d'un film est venue, qui ne vient pas de moi d'ailleurs, qui venait plutôt de ses proches, notamment de Dominique Mahut, qui était son percussionniste. Hein, mais vraiment bras droit, parce que Mahut est quelqu'un de très important dans la vie d'Higelin. Et voilà, donc je me suis dit, bah, quelle bonne idée. Et puis... j'ai fait ce film sur Jacques.
Elle sera le 22 janvier à l'affiche de Cas contraire avec un K, le premier film de Sarah Marc. Sandrine Bonner est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
Nous avons échappé à l'époque au bug de l'an 2000, mais échapperons-nous à celui de 2020 ? Même notre expert high-tech, le d'habitude imperturbable Anis Mbida, n'est pas très serein.
Pour la première fois de ma vie, oui, j'ai peur.
En quoi pourrait consister ce bug ? Et quelles innovations sur lesquelles on fondait beaucoup d'espoir pourraient avoir du plomb dans l'aile en 2020 ? Maison connectée, voiture autonome, Anis fait le point sur les ratés des nouvelles technologies.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe sauvage. Mathieu Noël.
Détente, zygomatique, musculation neuronale, vous écoutez l'équipe sauvage. 2 heures en compagnie des journalistes les plus affûtés d'Europe 1 qui se surpassent au service de votre culture G. Un seul sera élu chroniqueur du jour à la fin de cette émission. Sous l'œil de notre invité arbitre, aujourd'hui la comédienne Sandrine Bonner qui nous présente Cas contraire, le premier film de Sarah Marx. Et quel film ? On en parle jusqu'à 18h. Mais voici l'heure d'écouter notre troisième compétiteur du soir, un homme de culture comme vous, Sandrine. Les rares fois où il doit nous quitter plus tôt, c'est toujours pour un motif culturel. Vernissage, performance d'art contemporain, ballet à Garnier, comme avait pu le constater notre invité, le violoniste virtuose Renaud Capuçon, en octobre dernier.
Moi, j'ai été obligé de vous quitter un peu tôt, malheureusement.
Ouais, toi, tu vas à l'opéra, vrai ?
Oui, enfin, je vais pas à l'opéra, je vais à Opéra.
Je vais à Opéra dans une pizzeria, en fait.
Alice et Bidard, vous n'êtes pas pressé aujourd'hui, car pour Sandrine Bonner, vous avez accepté de décaler un kebab que vous aviez prévu à Barbès à 18h. Elle vous en remercie pour nous parler des ratés des nouvelles technologies, car il y en a.
Oui, il y a beaucoup de ratés, et souvent, les petites, quand, en matière technologique, les gens sont très court-termistes, et les conséquences peuvent être extrêmement graves, mais beaucoup plus tard. On va prendre l'exemple du bug de l'an 2000, tout le monde s'en souvient du bug de l'an 2000, on rappelle un peu comment ça fonctionnait, les dates étaient codées sur deux chiffres. Donc de 1900, on considère qu'il y avait 19 devant, et puis sauf que quand on arrivait à 2000, les ordinateurs pensaient qu'ils revenaient à 1900, et donc ça posait énormément de problèmes. On a corrigé le problème, sauf qu'on l'a corrigé un petit peu à la va-vite. Comment on l'a corrigé ? En considérant qu'en fait que les dates n'étaient pas codées de 1900 à 2000, mais qui étaient codées de 1920 à 2020. Ça permet de.
Et donc on arrive en 2020.
Voilà, on gardait toujours les dates sur deux chiffres, hein, parce qu'il fallait pas refaire complètement les systèmes, et donc on les a considérés qu'elles étaient codées de 1920 à 2020. Le problème, c'est qu'on est en 2020, on pensait que ces systèmes-là ne seraient plus en fonction, ne seraient plus utilisés, et évidemment, ça a commencé à poser des problèmes.
Ah, mais il y a eu des problèmes, vraiment ?
Oui. Alors il y en a eu plusieurs. Hein. Il y a des parcs-mètres à New York qui ne fonctionnaient plus. D'ailleurs, ils fonctionnent toujours pas. Si vous allez
à New York,
vous avez des problèmes de parcs-mètres. Il y a plusieurs caisses enregistreuses qui ont complètement paniqué, hein, qui se sont mises à bugger parce qu'elles pensaient qu'elles étaient revenues en 1920.
C'est génial,
donc elles imprimaient n'importe quoi. Et il y a un jeu vidéo qui a aussi quasiment arrêté de fonctionner, enfin qui a arrêté complètement de fonctionner à partir du 1er janvier.
Toujours,
le 1er janvier, c'est un jeu de catch.
Effectivement, je fais encore un peu de jeux vidéo, mais les jeux de catch, donc ça j'ai arrêté.
Et le jeu s'est complètement arrêté. Il y a plein de petits problèmes comme ça. Alors évidemment, les entreprises qui sont victimes de ces problèmes-là ne crient pas sur tous les toits, parce que ça montre justement qu'elles n'ont pas fait attention et qu'elles ont corrigé les problèmes de 2000 un peu à la va-vite.
Autre exemple avec Windows 7 qu'il ne faudra plus utiliser à partir de demain.
Oui, alors je sais pas si vous avez une machine un petit peu ancienne, mais si vous avez une petite machine qui utilise le fameux Windows 7,
eh
bien vous avez reçu un message qui vous dit attention, il faut arrêter à partir du 14 janvier ne plus utiliser Windows 7. Alors comment c'est arrivé ? Il faut savoir que Windows 7, ça date de 2009, donc ça fait 11 ans que ce système existe. Et quand Windows 7 est sorti, c'était peut-être le meilleur Windows que Microsoft n'ait jamais sorti. D'ailleurs, nous, chez Europe 1, le système qu'on utilise, c'est Windows 7.
Qui
date de 2009.
Ah oui, on sent qu'on date de 2009. Oui, donc, c'était peut-être très bien en moyenne. Mais aujourd'hui, s'ils pouvaient nous foutre un Mac, ça serait mieux.
Et donc, un peu, parce que c'est un système très ancien. Oh, sauf que qu'est-ce qui s'est passé après Windows 7 ? Il y a eu Apple qui a sorti l'iPad et Microsoft a voulu concurrencer l'iPad en sortant Windows 8. Et Windows 8 était
tout pourri.
Faux pour les tablettes. Oui, il était tout pourri parce que tous ceux qui. Il était pensé pour les tablettes. Et ceux qui avaient un ordinateur avec une souris et un clavier se retrouvaient avec un truc qu'ils ne comprenaient plus, avec un menu démarré avec des gros carrés. Si vous avez un Windows 8, un Windows 10, c'est pas un Windows 7, on ne comprend plus ce qui se fonctionne. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les gens ? Ils sont restés scotchés à Windows 7, qui connaissaient bien, qui marchaient bien. Et ça fait 11 ans que ça dure. Entre-temps, il y a Windows 8.1 qui est sorti, il y a Windows 10 qui est sorti. Et Microsoft dit, mais attendez, je vais pas continuer à mettre à jour parce qu'il y a plein de bugs dans les systèmes. Et donc, les pirates utilisent ces bugs pour. Profite de ces bugs-là pour pirater après votre machine. Donc Microsoft dit, attendez, ça fait 11 ans que le système existe, il faut maintenant passer. Et là, il a mis le couteau sous la gorge de tous les utilisateurs Windows 7. Si vous ne basculez pas demain, tant pis pour vous, votre système pourra être piraté.
Et selon vous, ce genre de précipitation expliquerait aussi les retards de la voiture autonome ?
Oui, alors la voiture autonome, on en parle depuis toujours. Pourquoi on en parle depuis toujours et qu'on nous a vendu monts et merveilles ? C'est parce que ces voitures autonomes avaient été testées là où habitent les fabricants de ces voitures autonomes, donc en Californie, en Arizona, donc Google par exemple, avait son siège en Arizona, où il testait les voitures autonomes. Et en Arizona, comment ça se passe ? Les routes sont extrêmement larges, il ne pleut jamais,
il n'y
a pas de piétons sur le bord des routes, il n'y a pas de voiture garée, il n'y a pas de bouchons, tout le monde est en voiture, les routes sont à 90 degrés, à angle droit, etc.
Là-bas, ça va, mais dans Rome, par exemple, dans le centre-ville de Rome, la voiture autonome,
quand ils ont testé leur voiture autonome, ils ont dit, mais c'est formidable, ça marche extrêmement bien ce système. Donc dans 5 ans, tout le monde aura des voitures autonomes, sauf qu'ils n'avaient pas pensé qu'il pouvait pleuvoir, qu'il pouvait neiger, qu'il pouvait avoir du verglas, des pavés, etc. Et quand ils ont commencé à tester leur voiture dans d'autres conditions, ils se sont rendus compte que ça marchait beaucoup moins bien et que du coup maintenant ils rétropédalagent.
Mais c'est pas des prix Nobel les types quand même,
C'est pas des prix Nobel, mais quand même ils sont censés toucher leur bille un peu plus que nous. Et Sandrine Bonner avait trouvé beaucoup mieux en voiture autonome l'autostop dans sa jeunesse. Comme ça, au moins elle monte, elle n'a rien à faire non plus. C'était bien. C'était la voiture autonome avant le.
D'autres risques.
Merci Anissé Mbida, épatante chronique. D'ailleurs, je tremble d'avance pour elle. Virginie Fulpin, vous êtes toujours prête à affronter Anissé ?
C'est du suicide. Toi qui l'as vu, tu sais très bien que c'est un bœuf.
Oui, je sais, mais c'est trop tard pour reculer. À suivre, selon une étude de l'université d'Oxford, on perd tous en moyenne 17 minutes chaque soir à s'engueuler avec son conjoint pour savoir ce qu'on va regarder à la télé ou sur les plateformes de VOD. Or, si Sandrine Bonner sait choisir ses films, Eva Rock, plus modestement, sait choisir vos films. Ses conseils télé-écran arrivent juste après un très beau duo, dont on a entendu un extrait tout à l'heure. On vous a mis l'eau à la bouche, voici Duo Dangereux, Sandrine Bonner et Jacques Higelin sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, 2 heures pour rire et découvrir en compagnie d'un invité qui donne le tempo, le ratio rire-découverte de notre émission. Par exemple, vendredi avec Kad Merad, on a plus ri que découvert, puisque Kad a adoré notre chronique 20 à petit prix.
Décalé Qatar, décalé Qatar.
Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir Sandrine Bonner pour un film choc. L'expression est souvent galvaudée, mais si je peux me permettre, du haut de ma petite culture cinématographique, pas là. C'est un premier film épatant que nous livre Sarah Marx, cas contraire. Ça sort le 22 janvier. Mettez-vous un rappel dans votre agenda pour ce film. Un mot peut-être, Sandrine Bonner, sur l'acteur qui incarne votre fils, Sandor Funtek. C'est quelqu'un dont on va beaucoup entendre parler, à mon avis, dans les prochaines années.
Ben, je pense, parce qu'il est très, très doué. Et je fais une petite parenthèse, ouais. Mais pas des moindres. Madonna s'est entichée de lui, figurez-vous.
Elle l'a contacté.
Ah, ils se connaissent. Il a même été à son anniversaire au Maroc l'année dernière.
Ah oui, ils se connaissent bien, là.
Je crois qu'elle a vu un film dans lequel il était. Elle a eu beaucoup d'intérêt pour lui. Elle avait un projet de film qu'elle voulait réaliser. Avec de la danse dedans, elle lui a fait prendre des cours.
Ah donc il va partir, ce que vous nous dites, ce jeune talent qu'on vient de découvrir va partir faire une carrière aux États-Unis.
Allons savoir. En tout cas,
Il faudrait qu'il fasse 2-3 films
oui,
ici.
Et il n'est pas du tout mytho. Hein. J'ai vu des photos lui avec Madonna et
c'est
tout
vrai.
Ça. Hein.
Enfin, j'ai déjà vu des photos d'Anissa avec Madonna, c'est Photoshop. Hein. Et après, quand on est
alors,
bon, on peut pratiquer.
Peut-être que c'est Photoshop, peut-être qu'il a menti à sa maman.
Alors, je vous le disais, je le dis souvent, aujourd'hui, l'ennemi numéro un du couple, ce n'est plus l'amant ou la maîtresse, c'est Netflix. 17 minutes perdues chaque soir à s'engueuler devant la télé pour savoir ce qu'on va finalement regarder. Heureusement, il y a désormais 17 minutes de gagner avec vous, ma chère Eva Rock. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir?
Eh bien, c'est un événement ce soir, c'est sur Canal+, le lancement de The New Pop. C'est
oui,
la suite
je l'attends depuis longtemps.
De The Young Pop, qui avait été diffusé en 2016 et qui racontait comment Lenny Bellardo, 47 ans, devenait pape. Alors il se fait appeler Pitres, c'est un pape très rock, fumant cigarette sur cigarette, très libertaire, machiavélique aussi, et interprété de façon magistrale par Jude Law, sous l'œil du réalisateur Paolo Sorrentino. Ça vous donne quand même le décor. Donc c'est la deuxième saison. La première saison se terminait sur la crise cardiaque du jeune pape, et bien là on le retrouve, il est allongé dans son lit d'hôpital, plongé dans le coma. Et donc pendant ce temps, au Vatican, on va s'activer pour trouver un nouveau pape. Toujours avec cette musique rock, ouais. Je vous conseille, même les génériques sont extraordinaires, avec des nonnes qui dansent dans des danses très, très lascives, enfin c'est extraordinaire. Bon, le choix donc va se porter pour ce nouveau pape sur John Brannox, qui est joué avec brio par John Malkovich. Il va être Jean-Paul III, toujours entouré de Sonia Dubois, qui est directrice de la communication, qui est incarnée par une extraordinaire Cécile de France. Ludivine Sagnier est également très présente, et c'est toujours aussi trash, aussi rock, scandale sexuel, scandale financier, trahison, coup bas, tout ça avec un côté très provocateur qui est assez jouissif, je dois le dire. La photographie est remarquable, elle appuie sur le surréalisme qui est habituel chez Sorrentino. Deux scènes sont hilarantes, une avec Marie...
Ne nous les racontez pas.
Non, mais je vais vous dire avec qui, parce que quand même il y a Marilyn Manson dans son propre rôle, et une avec Sharon Stone dans son propre rôle aussi, et c'est vraiment hilarant. Sur le fond, la réflexion...
Je dis juste à nos auditeurs, Eva ne va pas dire ce qu'est le contenu de cette scène, mais Eva nous l'a mimé hors antenne.
Quand vous verrez
la scène avec Sharon Stone, vous repenserez et vous visualiserez Eva Rock en train de faire devant nous.
Joli.
Et vous comprendrez la gêne qui nous a envahis à ce moment-là.
Sur le fond, la réflexion sur la religion et la croyance est toujours aussi passionnante. Vous l'aurez compris, c'est mon coup de cœur.
17 minutes de gagner, merci Eva Rock.
Europe 1.
À suivre, historiquement, on le sait, il faut beaucoup pour qu'un match de tennis soit interrompu. Seul un cas de force majeure, comme Marc Villalonga dans Un éléphant s'attrape énormément.
Ne dérangez pas pour moi, les enfants. Jouez, Bouli.
Qu'est-ce que tu fais là?
Devine, tu mènes en compagnie pour te voir. Dis-le, je savais pas.
Arrête.
Ne me parle pas sur ce ton, hein. Parce que ce sont encore ta propre mère. Et tu pourras recevoir une paire de claques devant tous tes camarades, tu sais.
Qu'est-ce que j'ai fait?
Marc Villalonga, on le rappelle, qui avait quand même un an de plus seulement que Guy Bedos au moment du tournage de cette scène. Marc Villalonga n'étant pas en Australie, il semblerait que les incendies monstres ne suffisent pas à déprogrammer l'Open d'Australie qui démarre aujourd'hui comme prévu. Shocking or not shocking, Virginie Fulpin, notre éditorialiste sport, vous livre son point de vue.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour rentrer chez soi avec le sourire mais sans mettre en veille son cerveau. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 guerroient au service de votre culture G. Lequel sera digne de s'asseoir, non pas sur le trône de fer, mais sur mes cuisses, afin que je le couronne chroniqueur du jour tout à l'heure. Vous votez via Twitter en sachant que la voix de notre invité d'honneur comptera triple. Aujourd'hui, c'est Sandrine Bonnaire qui nous accompagne pour nous présenter Cas contraire, premier long métrage très réussi, on l'a dit, de Sarah Marx. Sur votre conception du métier, Sandrine Bonnaire, vous dites « mon métier m'a appris la sérénité ». S'il y a bien un métier que je n'associe pas à la sérénité, c'est bien celui de comédien. C'est certainement parce que ça a marché tout de suite, dès le début. Vous n'avez jamais eu de période difficile.
Ah oui. Moi, je parce parle comédien, de, pour les comédiens pour qui ça font,
ah oui, enfin, oui, c'est ça.
Qui ont du succès. Hein. Ouais. Ah oui, non, sinon ça peut être très angoissant d'attendre le téléphone sonner, d'attendre d'être désiré par quelqu'un. C'est horrible.
Et ça vous est jamais arrivé? Vous avez eu cette chance-là de ne pas avoir cette angoisse du téléphone?
Oui, tout à fait.
Elle a non seulement été
désirée, que ça dure.
Par, elle a été désirée par tous les réalisateurs et aussi par Anis Mbida ici présent. On peut quand même le préciser à nos auditeurs. Anis Mbida quand même.
Oh, Anis Mbida. Vous l'avez fait, je sais pas l'affaire.
Anissa Mbida. Anis Mbida est entrée en studio quand même. Et là, alors, il faut dire que tous les journalistes tentent un petit peu de séduire l'invité chaque jour.
Mais là, c'était un cri de...
Mais là, c'était un cri du cœur.
Oui.
Et Anissa est allée droit au but en disant tout simplement qu'il était amoureux avant de Sandrine Bonnaire, ce à quoi Sandrine Bonnaire a répondu « Pourquoi avant ?»
Oui, c'est, oui, c'est ça. Mais figurez-vous que voilà, c'est moi qui suis tombée amoureuse de lui. Là, il est beau comme un dieu.
Bon, alors, très bien. Alors,
j'ai eu un coup de foudre.
Oui, oui, mais il faudra voter quand même sur le fond un petit peu, Sandrine. Pas seulement.
Je vais prendre son 06.
Oui, alors, tout le monde se calme. Tout le monde se calme. Sandrine Bonnaire, si la vie est une jungle, ce que dépeint le film Cas contraire, l'équipée sauvage est encore pire. L'heure est venue d'écouter notre dernière journaliste en compétition ce soir, Virginie Fulpin. Avec vous, on prend la direction de l'Australie. C'est ça?
Oui, exactement. L'Australie, là où il y a évidemment d'énormes incendies, mais où on continue à jouer au tennis comme si de rien n'était, tranquillement. Hein. L'Open d'Australie commence donc aujourd'hui avec les qualifications. Alors, il y a un jour ou deux où les organisateurs se sont demandé est-ce qu'on va être obligé de reporter le tournoi ou pas, mais très vite, ils ont dit « Oh ben non, pas du tout, tout va bien, Madame la Marquise. Les incendies sont à plusieurs centaines de kilomètres de Melbourne. »
Ils n'ont pas des émanations, déjà rien que pour les joueurs.
Hein. Alors, ouais, mais, si, oui, mais bien sûr, mais bien, aussi, sûr ouais. bien sûr que c'est dangereux justement, parce qu'il y a un vrai problème de qualité de l'air. C'est-à-dire que le taux de particules fines est 7 fois supérieur à ce qui est normalement respirable. C'est-à-dire que là, si vous prenez une carte de l'Australie, vous allez voir une carte de la qualité de l'air, tout est en rouge avec « dangereux pour la santé ». C'est ça qui est quand même marqué. Les autorités locales ont demandé aux gens de ne plus faire de sport pour l'instant parce que c'est pas bon.
Sauf les pros du tennis.
Sauf les pros donc, qui vont jouer quand même au tennis. Alors les organisateurs disent « non mais il n'y a pas de problème parce qu'en fait on a 3 stades où il y a des toits rétractables et puis s'il faut, on ira dans les cours d'entraînement qui sont couverts ». Sauf que l'air pénètre quand
bien,
même.
Bah oui, bien sûr. C'est pareil en intérieur qu'en extérieur.
Exactement. Enfin, alors peut-être que ce sera un petit peu moins vicié, mais là, il y a quand même aussi un autre problème. C'est-à-dire que pour les premiers tours, il faut faire jouer sur tous les cours parce qu'il y a trop de monde. Sinon, le programme est trop chargé. On ne peut pas juste utiliser les 3 cours avec les toits rétractables. Donc les stars vont pouvoir jouer dans ces cours-là,
parce stars, que ce sont les plus gros. Et aux
puis,
jeunes pousses.
Voilà, exactement, les jeunes pousses ou les sous-fifres, eh ben, ils
et
pourront aller respirer.
En plus,
ah ben, en plus, c'est des températures qui atteignent 40 degrés, là, en ce moment. Il y a déjà
c'est l'été, là-bas.
Oui, c'est l'été. Il y a déjà eu des malaises. Avant même les incendies, il y a 2 ans, ça a été très compliqué à gérer.
Il n'y a pas des joueurs qui boycottent le tournoi, qui se disent attendez, moi, ma santé passe avant mon
pour
classement ATP.
Pour l'instant, non. Pour l'instant, ils se sont contentés de dire bon, alors, on va faire attention. Novak Djokovic est le président du Conseil des joueurs, hein, de tous les joueurs. Hein. Et il a dit « Bon, si jamais c'est dangereux pour la santé, on pourrait peut-être essayer de reporter le tournoi. » Finalement, les organisateurs ont su trouver les mots.
Le chèque. Le chèque qui va avec.
Voilà, exactement. Sans doute. Et donc, plus personne ne dit rien. Puis ils disent aussi « Mais vous inquiétez pas, de toute façon, on a des experts météo, on a un staff médical renforcé. » Déjà, je voudrais bien comprendre, puisqu'ils nous disent qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi avoir un staff médical renforcé? Et puis, je pense aussi que les experts météo ont peut-être 2 ou 3 autres urgences à régler en ce moment que de s'occuper précisément d'un tournoi de tennis.
Et votre analyse, c'est que quelque part, les organisateurs ont été obligés de faire semblant de penser annuler ou reporter le tournoi,
alors
qu'en fait, ils n'y ont jamais cru. C'est
difficile de faire autrement parce qu'on ne peut pas dire bon, mais non, mais on s'en fout, c'est notre tournoi qui est important, donc on fait semblant. Et puis très vite, non, ils nous ont dit tout allait bien, parce que en fait, c'est une telle machine économique, l'Open d'Australie, maintenant. C'est-à-dire que pendant un mois, on joue au tennis seulement en Australie. C'est donc ce mois de janvier. Il y a 800 000 spectateurs qui viennent. Ah oui. Et puis, c'est le seul tournoi du Grand Chelem qui est à l'intérieur même de la ville. C'est-à-dire que Roland-Garros, c'est un petit peu excentré. Londres, encore plus. Et New York, c'est sous l'aéroport, comme on le voit à peu près tous les ans. Et là, ça fait vivre, en fait, toute la ville, parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent en Australie, qui profitent de cet Open d'Australie pour aussi faire d'autres choses et donc rester un petit moment dans le pays. Et donc, globalement, ils n'ont aucun intérêt, en tout cas économique, à reporter ou annuler ce tournoi.
En revanche,
voilà,
pour
c'est
les
une
auditeurs,
question de priorité.
En revanche, on a tout intérêt à reporter notre voyage en Australie, quand même, vu la qualité de l'air actuelle.
Ah oui, priori, c'est ça, il va y avoir beaucoup moins de tourisme, là, du coup.
Bah oui.
Je pense, mais sauf que eux compte sur le fait que les billets sont vendus, que les gens vont se dire « bon, allez, ça se calme un peu, on y va quand même ». Puis ils ont un discours qui est tellement rassurant et tellement faux, je pense.
Il pourrait y avoir des conséquences plus tard, en fait.
Oui, c'est possible.
Merci beaucoup Virginie Fulpin, votre éclairage australien aura-t-il convaincu nos auditeurs et notre invité ? La réponse ne va plus tarder.
Europe 1.
À suivre, au lendemain des fêtes, lorsque vous montez sur votre balance, vous réalisez qu'il est peut-être temps de passer en mode détox. Eh bien, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous avez sonné à la mauvaise porte, puisqu'Olivier Pouls arrive et la mode détox n'est pas encore arrivée jusqu'à lui.
Tiens, essaye les trucs salés, ça passe tout seul. Prends de la moutarde, prends des cornichons, hein, allez. Tu veux du saucisson à l'ail ? L'admirable cholestérol qu'on va se payer.
A tout de suite pour Délice in Extremis, votre recette pas détox de dernière minute.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, le premier tournoi journalistique de France. Et peut-être même, qui sait, du monde. Deux heures à cheval sur le rire et l'info. Deux heures également pour apprendre à mieux connaître une star, découvrir ses petits secrets. Vendredi, par exemple, Cadmera nous révélait sa technique pour faire rire sa partenaire sur le tournage du film Une belle équipe.
En plus, moi, je sais comment la faire rire, maintenant. J'ai une technique. J'imite Christophe Maé.
Qu'on s'attache, qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne.
Voilà.
Qu'on s'attache.
Aujourd'hui, c'est Sandrine Bonner qui passe l'après-midi sur Europe 1. Vous avez des trucs, vous, pour faire rire vos partenaires sur des tournages ?
Ah ouais, alors un jour, j'ai fait un coup à Marina Foïs. Qu'est-ce qu'on a ri ? J'ai mimé un genre de tic physique. Et on commence à tourner une prise et je fais une espèce
pendant
de...
la prise, vous l'avez fait
pendant la prise, ouais, moteur, et j'avais prévenu toute l'équipe.
Ah d'accord, elle était la seule à pas
savoir. Et donc je faisais des trucs bizarres avec la bouche, des espèces de grimaces. Et puis on continue à jouer, je vois qu'elle se décompose un peu, mais bon, elle est quand même obligée de tenir la scène. Puis elle me fait, après le coupé, elle me dit, dis donc, tu déconnais ou quoi ? J'ai dit, quoi ? Mais qu'est-ce que, de quoi tu parles ?
Tu attaques mon interprétation.
Et elle a gobé, et on a recommencé à deuxième prise, troisième prise, j'ai refait la même chose, et puis j'étais très très sérieuse, et puis après elle finit par me dire, ouais, non mais moi ça peut m'arriver aussi.
Non.
Quand je suis hyper fatiguée. J'ai aussi un problème avec l'œil. Je peux avoir des espèces de petits tremblements de machin comme ça. Oh là là, mais qu'est-ce que c'était drôle. Et puis après, bon, évidemment, j'ai fini par lui dire que je déconnais. Elle m'a dit salope, tu m'as eu.
Elle a avoué tous ses secrets.
Est-ce que ça, on peut le retrouver sur les bonus du film, sur le DVD ?
Je sais pas si ça y est, je suis pas sûre.
Bah, c'est énorme comme scène, on a tous envie de le voir maintenant.
Oui.
On lance un appel au réalisateur.
Ouais, tiens, je vais me renseigner.
De ça, ça pourrait être bon sur le bonus avec les tics. Avec les tics en plus. On a parlé du documentaire sur Jacques Higelin. Il paraît que vous rêveriez de tourner un documentaire sur Jacques Dutronc ou de réaliser un film avec lui. Est-ce que c'est vrai ça ? J'ai lu ça.
Ah oui, ça c'est vrai.
C'est quelqu'un
alors
que
j'ai déjà fait un film avec lui qu'actrice. Ouais. Je crois que c'est dans mon parcours artistique, je crois que c'est une des personnes qui m'a le plus marquée. Et humainement et artistiquement, je trouve que c'est un acteur sublime. Et oui, je rêve de le filmer depuis que je l'ai rencontré. Je l'aimais déjà beaucoup avant de le connaître, mais c'est quelqu'un qui...
Donc c'est un projet qu'on pourrait voir dans les années à venir.
Ben j'espère, il faut trouver une belle idée. Alors ou effectivement un documentaire, mais il y en a déjà eu pas mal de faits sur lui. Paraît-il qu'il n'y a aucune femme n'en a fait sur lui, donc peut-être
ça sera un regard différent,
ça peut être un regard différent.
Ou alors, oui, un film de fiction, mais il faut trouver la bonne idée.
Mes agneaux, vous connaissez mon côté dictatorial. Vous ne serez donc pas surpris si je ne vous suggère pas, mais vous ordonne d'aller voir Cas contraire le 22 janvier prochain au cinéma avec une immense Sandrine Bonnaire qui est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
Une fois de plus, vous avez totalement oublié de songer à une recette pour ce soir. Vous avez tenté de refourguer des coquillettes jambon à votre épouse. Vient un jour où elle vous quittera. Heureusement, il y a Delice in Extremis, votre recette de dernière minute. Comment définir Olivier Pouls ? Le gourmand ? Le gourmet ? L'épicurien du gras ? Oui, Sandrine ?
Non, le cinglé.
Ah oui, ça marche aussi ! C'est plus simple, ça marche. Delice in Extremis arrive juste après Philippe Steele, Portugal, The Man sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez toujours l'équipée sauvage, l'émission qui lustre vos neurones, bichonne vos zygomatiques et trouve encore le temps d'exciter vos papilles. Or, souvent, en matière de gastronomie, le mieux est l'ennemi du bien. Surtout après les fêtes, on a parfois passé des heures en cuisine, tout ça pour que Tati Marcel lâche un glacial. Ça manque de sel. Début janvier, on n'a pas forcément envie d'un plat trop complexe. C'est pourquoi, quand pour la recette du jour, Olivier Pouls m'a proposé...
C'est un émincé de chevreuil pris dans le cuisseau, convenablement bardé, doré à oui. feu ardent, rôti à feu moyen, oui. accompagné d'une oui. marinade préalablement
non.
passée.
Non, oui, non.
Relevé au genièvre, oui. au porto et à la bien sauce sûr. Poivrade.
Oui, oui,
et non. tout servi dans une purée de châtaigne oui. et d'appel de gelée de
miel. Oui, alors je lui ai dit non, Olivier, plus sain. C'est là qu'il a eu l'idée de l'omelette. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Alors, le concept de Delice in Extremis, chaque jour, une recette simple et pas chère, là, on réunit vraiment les deux.
Oui, l'omelette, vous allez me dire, il s'est vraiment pas cassé le cul pour un lundi. Mais...
Ah, casser les œufs, moi, je... enfin, c'est pas grave.
Mais voilà, les œufs, mais... j'allais dire, mais il a cassé les œufs.
Ah,
ah, vous m'avez mangé ma vanne.
Pardon,
que vous voulez.
Et Dieu sait que c'était une vanne assez recherchée
et, je l'avais
et de qualité.
Alors, vous savez, une omelette, ça paraît tellement banal, ça paraît tellement simple, et pourtant, c'est probablement un geste technique en cuisine qui est très, très difficile. Pour preuve, lors du dernier concours des meilleurs ouvriers de France, la présélection se faisait sur une omelette, vous imaginez quand même. Et Paul Bocuse, dit-on, recrutait ses cuisiniers en leur faisant faire une omelette. Il leur demandait de faire une omelette devant lui si elle était ratée dehors. Oh. Et si elle était réussie, il pouvait intégrer la brigade. C'est que c'est plus technique qu'il n'y paraît une omelette. Il ne suffit pas simplement de casser les œufs et de les mettre dans une poêle chaude. Il y a quelques petits gestes que je vais vous expliquer. Puis surtout, après, je vais vous donner une idée d'omelette vraiment bluffante. Alors, pour l'omelette de base, tout simplement, des œufs extra frais bio, bien sûr, qu'on va bien battre. On va les rendre légèrement mousseux. On va les assaisonner. Du beurre dans une poêle anti-adhésive. Il ne faut pas chauffer trop le beurre. Donc, dès qu'il est fondu, on va mettre les œufs dedans. Et puis, il y a un petit geste avec une spatule en bois qui va consister à donner une espèce de petit mouvement de manière à ramener régulièrement l'œuf qui est à l'extérieur de la poêle vers le milieu de manière à ce qu'il y ait une cuisson homogène et que vous n'ayez pas des bords qui soient secs et trop cuits et un milieu qui ne l'est pas. Et donc, quand vous allez voir que cette omelette accroche, on va relever légèrement la poêle, elle va glisser vers le fond et hop, il y a un petit tour pour la rouler.
Ah
et on la sert rouler.
Mais comment on fait ? Ah oui, non, d'accord.
Ça me paraît,
d'accord.
C'est ce assez, coup du poignet c'est qui assez, me paraît voilà. compliqué.
Alors, oui. Entre-temps, on a pu évidemment la garnir si on le souhaite. Mais là, je vais vous donner une petite idée d'omelette qui va prendre juste 2 minutes de plus et qui vraiment est bluffante. C'est que vous, vos œufs, vous allez prendre, vous allez séparer les blancs des jaunes et vous allez monter vos blancs en neige.
Bon, ah,
ça va donner une omelette ça, beaucoup plus aérienne, une omelette soufflée. Et donc, vous les montez en neige. Mais vous ne savez pas faire, vous rigolez ou quoi ? Vous avez un fouet, vous avez des blancs.
J'ai un fouet, mais il ne sert pas à ça.
Vous avez des bras.
Il ne sert pas à la cuisine.
Mais enfin.
Si vous avez des bras, ben c'est parti, vous montez vos blancs, vous réincorporez les jaunes. Et puis alors, même technique, une poêle bien chaude, pas trop quand même, de la matière grasse. Vous mettez cette omelette soufflée, vous tournez légèrement, vous couvrez juste 3 minutes le temps de faire prendre de la chaleur au cœur de l'omelette. Et puis vous garnissez, vous roulez et vous avez une omelette qui est épaisse, qui est soufflée, qui est hyper spectaculaire.
Alors ça, c'est une omelette hyper spectaculaire soufflée, c'est-à-dire tout ce que je déteste puisque j'aime que les omelettes soient bien baveuses.
Il faut évidemment qu'elles restent baveuses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le dessus soit trop cuit. Il faut que le dessus reste moelleux et reste baveux. Et puis pour vous, Mathieu, on va râper un peu de truffe parce que c'est la saison, je sais que...
Vous
avez
pas les moyens.
Faiblesse de ce côté-là.
On n'a pas tous vos moyens, Olivier Pouls. Merci quand même pour cette belle recette de l'omelette spectaculaire. Bye Pouls.
Europe 1.
L'équipe est sauvage touche à sa fin. Une émission qui vous laissera certainement le même goût amer qu'Eva, son dernier plan Tinder.
Non, mais si, parce que tout est allé très vite d'un coup. Et que d'un coup, ça s'est arrêté aussi. Donc c'est voilà.
Et oui, voilà. Qui sera élu chroniqueur du jour ? A tout de suite, les amis, pour la grande finale.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Chaque soir, au moment du verdict, c'est la même émotion. Émotion encore décuplée aujourd'hui puisqu'on recevait une de mes actrices préférées, la fabuleuse Sandrine Bonner, qui, je crois, a adoré notre émission et a été bluffée par nos journalistes.
Autant j'aime bien la légèreté, la futilité... Oui. Mais par contre, l'idiotie, j'adhère pas.
Bon, bref, c'est le moment du vote. Qui sera élu chroniqueur du jour? Lequel de nos journalistes vous aura le plus intéressé? C'est l'heure du quitte ou double. Ils ont chacun 10 secondes pour convaincre. Axel de Tarlé ne peut convaincre personne puisqu'il est parti à son stage de formation anticorruption. On l'embrasse. Anis Mbida, pourquoi voter pour vous?
Tout simplement parce que j'étais amoureux de Sandrine Bonner et que je sens que je suis en train de le redevenir.
On embrasse votre femme au passage, Anis. Virginie Fulpin.
Non, moi je déclare forfait après ça.
Mathieu Charine, vous voulez tenter votre chance quand même?
Je vais vous dire un mot. La compétition c'est bien, mais défendons surtout le cinéma. J'espère avoir donné envie aux gens d'aller voir 1917.
Eh bien, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Allez, 40% pour Anissé. Deux points pour Anissé, d'ores et déjà.
Ça sent le grand chelem. Deux points pour Anissé Mbida. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui à Mathieu Charrier, qui nous a expliqué avec brio le plan séquence et merci, m'a donné Mathieu. Envie de voir ce film 1917. Ça vous fait un point, moi je n'ai qu'un point, vous savez.
C'est pas grave.
C'est ici, c'est l'invité qui a le privilège et aussi la responsabilité de trancher. Sandrine Bonner, qui selon vous, parmi les journalistes d'Europe 1, mérite d'être élu chroniqueur du jour?
Eh bien moi je dirais, j'aurais bien aimé, mais c'est trop facile.
Oh non,
c'est beaucoup trop facile.
Ça ne sera donc pas Anissé Mbida.
Non. Je suis désolée. Bah, d'abord, vous êtes mariée, vous avez deux enfants.
Il faut s'en souvenir.
Donc,
parfois,
notre histoire est, voilà, est impossible. Bah, tant pis, tant pis, tant pis.
Moi, ça peut être tout ce que vous voulez. Moi, je prends.
Il est fou.
Non, moi, je dirais Axel.
C'est Axel qui va l'emporter.
Eh ben ouais, parce que je l'ai trouvé assez brillant. Parce que je crois qu'il a raison. Excusez-moi, mon cher Mathieu. Mais il a quand même, il est pas mal en cinéma, il est pas mauvais.
C'est la double punition pour Mathieu Charrier qui perd, et non seulement il perd, mais il est humilié. On peut
il
le dire.
Il a quand même reconnu la voix de Philippe Noiret.
Ouais, c'est tout.
Il a,
il a toujours pas compris ce qu'est un plan séquence.
Mais si, je vous l'ai dit.
C'est pas grave.
Sandrine Bonner, votre choix est fait. Mesdames et messieurs, c'est Axel de Tarlé qui remporte la 92e journée de l'équipée sauvage. Il n'est pas avec nous puisqu'il est à sa formation anticorruption, mais de là où il vous remercie, Sandrine. On remercie chaudement Sandrine Bonner, qu'on vous invite à découvrir le 22 janvier prochain dans Cas Contraire de Sarah Marx, aux côtés de la révélation Sundor Funtech. Merci également à tous mes journalistes, Eva Rock, Virginie Fulpin, Axel de Tarlé, Mathieu Charrier, Anissé Mbida et Olivier Pouls. L'équipée sauvage revient demain 16h. Tout de suite, vous restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changé avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Que la semaine commence bien avec vous tous et avec la malice de toute votre équipée sauvage. Demain, rendez-vous dès 16h. Vous recevrez l'écrivain David Fuenkin, dont on sera attentif. Belle soirée à vous Mathieu. Ciao.